France Musique, relax, Lionel Esparza.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine qui sera relaxe, oui, mais aussi américaine dans la perspective des élections aux États-Unis la semaine prochaine, avec d'abord un grand moment d'orchestre, le mandat de Fritz Reiner à l'Orchestre Symphonique de Chicago, et puis toute la semaine à 16h, les disques des légendes qui rendront hommage à des interprètes états-uniens. Aujourd'hui donc, Jesse Norman dans un programme de Spirituals. Mais tout de suite, une heure avec Fritz Reiner. We'll be right back. C'est pas la plus grande musique du monde, il fallait donc un Fritz Reiner pour l'emballer comme ça, avec l'orchestre symphonique de Chicago à la toute fin des années 50. La marche slave, opus 31 de Tchaïkovski. Je l'ai choisi aussi pour le côté militaire, peut-être, de ce que contient cette musique, qui résonnait d'une certaine manière dans la personnalité musicale de Fritz Reiner. Vous le savez peut-être, l'un des pires autocrates de l'histoire de l'orchestre. C'était un personnage imbuvable, on peut le dire, intransigeant, cassant avec les musiciens, parfois même méchant et avec un humour un peu limite. Il y a cette anecdote presque célèbre, Reiner avait une gestique minimaliste, il bougeait très peu en scène. Pas besoin parce que tout avait été réglé au millimètre en répétition auparavant. Or un jour, pour moquer ses gestes imperceptibles, un contrebassiste sortit une petite longue-vue comme ça et commença à regarder le chef au travers de sa longue-vue. Reiner prit un bout de papier sur son pupitre, il écrivit quelque chose dessus qu'il montra de loin au contrebassiste sans rien dire. Sur le papier, il y avait écrit « You are fired », vous êtes viré. Enfin, c'est un sujet d'étonnement. Cet artiste sévère faisait merveille aussi dans le répertoire léger. un côté mécanique implacable dans la musique de Rossini, et bien c'est peut-être ce qui convenait si bien à la manière de Fritz Reiner lui-même, implacable, même poussé jusqu'au furieux, c'est ce qu'on a entendu ici, dans cette ouverture du Barbier de Séville de Rossini, donc Fritz Reiner et l'Orchestre Symphonique de Chicago.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Parmi les incontournables dans la discographie de Fritz Reiner à Chicago, il y a des poèmes symphoniques de Richard Strauss. Il se trouve qu'il avait connu le compositeur et avait un peu travaillé avec lui dans les années 1910 à l'opéra de Dresde. Il faisait magnifiquement sa musique. Ces tableaux d'une exposition de Moussorgski, tête de discographie depuis des décennies, on peut le dire. Bon, j'ai parfois évité dans cette émission les tubes reineriens un peu trop inévitables, mais certains, que voulez-vous. Ben, on peut pas faire sans. Exemple, ceci qui est inégalé depuis 70 ans, le concerto pour orchestre de Béla Bartok en 1956. Le premier mouvement du concerto pour orchestre de Béla Bartók par Fritz Reiner et l'Orchestre symphonique de Chicago. Reiner a eu deux modèles de chefs. D'abord Arthur Nikisch, chef hongrois comme Reiner. Il avait vu diriger le Philharmonique de Berlin dans les années 10 et avait pu admirer sa gestuelle assez particulière, grande économie du geste dont il s'est, semble-t-il, inspiré. Et puis il y avait le chef le plus admiré au début du siècle, le 20e bien sûr, Arturo Toscanini, qui a été un modèle pour tout le monde, avec son idéal de précision et de travail acharné. Reiner fut souvent commenté comme un spécialiste de la musique du XXe siècle, on l'a entendu d'ailleurs ici à l'instant avec Bartók. On l'oublie parfois, mais dans les grands classiques, il pouvait faire merveille aussi. Le voici au final de la 3e symphonie de Johannes Brahms.
Thank you.
Le final de la troisième symphonie de Johannes Brahms par Fritz Reiner et l'Orchestre symphonique de Chicago.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
On ne l'a pas dit encore dans cette émission, mais enfin rappelons que Fritz Reiner fut l'un des chefs hongrois qui bâtirent la plus grande part des orchestres américains au XXe siècle. Ces orchestres existaient auparavant, mais à un niveau qui était pas amateur, mais à peine professionnel. Des gens comme George Sell, le jeune Normandie, Antal Dorati, plus tard Scholti, firent véritablement les orchestres américains. Fritz Reiner, lui, ce fut dès 1921 qu'il s'installa aux États-Unis. Il avait alors 33 ans. Il y passa le reste de sa carrière en crescendo. D'abord, il prit Cincinnati, qui était un tout petit orchestre de même pas 50 musiciens. En 10 ans, il étoffa l'effectif et le mena à un niveau vraiment exceptionnel. Et puis, il y eut Pittsburgh, même travail de renouvellement du personnel et d'élévation du niveau à coup de discipline de fer. Et puis enfin, Chicago, où il arrive en 1953 et où il lance une politique discographique qui allait se révéler vraiment exceptionnelle, profitant des dernières avancées technologiques et puis aussi de la couleur inimitable. On l'écoute depuis 40 minutes maintenant. Maintenant, des techniciens de RCA à l'époque. Ici, en 1959, un extrait d'Alexandre Nevsky de Serge Prokofiev.
Thank you.
Serge Prokofiev, un extrait d'Alexandre Nevsky par Fritz Reiner, l'orchestre et le chœur symphonique de Chicago. Un chœur qui avait été fondé 2 ans après l'enregistrement qu'on vient d'entendre, à l'instigation de Reiner justement, et qu'il avait confié à une dame, Margaret Hillis, le Chicago Symphony Chorus, qui fut le premier ensemble choral permanent affilié à un grand orchestre aux États-Unis. Je note que Reiner avait le coup pour attirer les bons musiciens. Ainsi, il fait venir, entre autres, à Chicago, le violoncelliste Janosch Starker, qu'il débaucha au Metropolitan Opera de New York et qui passa là quelques années avant de poursuivre sa carrière en solo. On va refermer cette émission en rappelant que Reiner était aussi un grand beethovenien, ici le Molto Vivace de la 9e symphonie. Thank you.
Thank you.